Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle à ce 25 mars. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui pour ce nouvel épisode où on va parler, on va bien évidemment parler de ce qui se passe dans la course aux séries éliminatoires, en particulier chez les Canadiens de Montréal qui viennent de signer quand même deux victoires importantes. On le dit à ce moment-ci de l'année, là. Chaque match semble être le match le plus important de l'année, mais hier, il va falloir en parler parce que hier, la date du 24 mars, il va peut-être falloir l'encercler dans le calendrier parce que ça va avoir été une soirée très importante dans cette course aux séries. On va parler de ça aujourd'hui à l'émission. On va aussi recevoir Jean-Luc Grandpierre qui est analyste des matchs des Blue Jackets de Columbus. Les Blue Jackets qui sont au Centre Bell jeudi. Alors, on va lui demander de nous parler de cette équipe-là où tout a viré de bord avec l'embauche de Rick Bowness plus tôt cette saison, le 12 janvier pour être précis. Depuis ce temps-là, les Blue Jackets sont une des deux meilleures équipes de la Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer tout ça? Jean-Luc va venir nous parler de tout ça avant de se lancer. Bien, je vous invite, si vous écoutez sur le site d'LNH.com, bien, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister. Donc, faites une recherche, la tasse de café, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous pour être certain de ne rater aucun épisode. On parle de hockey, on parle justement de ce qui s'est passé chez les Canadiens. Je les accueille avec moi, Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick.
Et Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Bonjour, messieurs.
Ça va, messieurs?
Ça va bien.
Ça va bien. Printemps? On est radio printemps. Hein? Je ne sais pas si vous regardez dehors. Là,
La date, c'est le printemps.
C'est le printemps. Ça ne sent pas les séries.
On attend encore. Non, on attend encore d'aller à l'aréna. En running shoe, ouais. Puis en petit manteau de printemps, là, avoir l'ambiance des séries un peu, mais ici
ben,
au Québec,
c'est
encore les bottes puis le manteau d'hiver.
Mais j'allais dire, ça sent peut-être pas le printemps puis les séries dehors, mais dans l'aréna, ça sent le printemps, il y avait de l'ambiance hier, puis il y en a encore. Écoute, même le nanana et goodbye qui est revenu dans les derniers jours, on va parler de ça. Avant de se lancer, deux tristes nouvelles quand même cette semaine, puis je pense qu'il faut en glisser un mot. La première, décès tragique de la journaliste de NHL.com, Jesse Pierce, qui a été emportée dans un incendie avec ses trois enfants du côté du Minnesota. Jesse, qui couvrait les activités du Wild du Minnesota pour NHL.com. Histoire vraiment tragique. Puis Jesse, c'était vraiment... Tu sais, on a un correspondant pour chaque équipe dans la Ligue. On a plusieurs journalistes. Et Jesse était vraiment un peu différente, très enjouée dans son écriture, dans sa façon de couvrir. Elle avait travaillé fort pour couvrir la Ligue nationale de hockey. Donc, histoire super triste. Ça a fait le tour des médias. Puis tout ça. Écoutez, il y a un GoFundMe qui a été mis de l'avant là, pour elle. S'il y en a qui nous écoutent qui veulent donner quelque chose, faites une recherche. GoFundMe, Jesse Pierce, vous allez trouver. Nouvelle très triste dans le monde du hockey et dans le monde du sport en général au Québec, particulièrement baseball, mais aussi hockey, parce qu'il était partout de toute façon. Roger Brulotte qui nous a quittés vendredi dernier. Après, écoutez, Roger, comment que dire sur Roger? Je pense qu'on a tous une anecdote ou quelque chose sur Roger qu'on peut partager. Je sais pas si vous voulez y aller, les gars, en premier, là, rendre un petit hommage à Roger. C'était quoi, Roger Brulotte? Pour ceux qui nous écoutent, surtout, on a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent en Europe qui connaissent peut-être pas qui était Roger Brulotte. Les Expos de Montréal, là, il y a eu des grands joueurs dans les années 80, mais il y a eu aussi Roger Brulotte, il y avait aussi Claude Raymond, il y avait Philippe Allou plus tard. Mais Roger, c'était l'analyste des matchs, un gars hyper coloré qui a tout fait de toute façon dans cette organisation-là. Mais partout à Montréal, partout dans le monde du sport, les gars, vous avez des anecdotes, là, je suis certain.
Oh oui, tu sais, c'est probablement l'homme de 5 pieds 4 qui a été le plus grand de nature qu'on peut trouver.
Depuis Napoléon.
C'est peut-être plus sympathique que Napoléon.
Oh, absolument.
C'était quand on parle de personnage, c'en était tout un, mais c'était surtout un homme hyper généreux, gentil. Moi, à mon époque au Journal de Montréal, Roger me téléphonait souvent. Elle pouvait jaser de mon article du matin. Puis même, petite anecdote, l'été, je regarde le baseball, je suis tranquille, assis sur le divan. Puis quelques minutes plus tard, mon cellulaire sonne, Roger Brulotte. Moi, je me dis, non, pas répondre.
Tu réponds,
oui.
Quand Roger appelle, tu réponds,
oui. Oui, je me mets à jaser avec Roger. Ça fait un classique. Là, 3-4 minutes, je suis au téléphone avec Roger. Puis là, je lui dis, Roger, est-ce qu'il pleut ta game de balle? Comment ça que tu m'appelles pendant que tu diffuses un match sur les ondes de TVA Sport? Puis il dit, ben là, GF, Je te dérange-tu? Non, non, tu me déranges pas. Kaz, il est capable de faire 2-3 manches tout seul. Là. C'est pas la première fois. Là. On a le temps, on peut jaser, il n'y a pas de problème. Ça, c'était un classique. Puis même à l'époque, au stade olympique, il pouvait partir, s'acheter un hot dog, ouais. Manquait une manche ou deux. Le degré de nervosité était un petit peu moins présent chez Roger, mais ça faisait sa grande force aussi. Il était là pour mettre de la couleur. Puis quand venait le temps de décrire un moment magique de l'histoire des Expos, plus récemment celle des Blue Jays, mais Roger était là. Mm-hmm. Puis l'autre petite anecdote, rapidement, je me souviens d'un tournoi de golf, Jonathan Drouin. Je dois amener avec moi ma plus grande Rosalie. L'école n'est pas encore recommencée, c'est une journée de semaine. Puis dans le tour, je disais à Rosalie, là aujourd'hui, tu vas croiser certains joueurs de hockey, mais techniquement, tu n'es pas supposé être présente. T'es avec papa, donc sois tranquille. Puis ça, Rosalie, la définition de sois tranquille, c'est parfois un défi. Sois tranquille, demande pas d'autographe aux joueurs, demande pas de photos aux joueurs que tu vas croiser. T'sais, essaie de t'effacer dans le paysage. Puis Rosalie, elle m'écoute, elle est assise à une table bien tranquille. Puis quelques minutes plus tard, j'entends Roger. Roger dit « Ta fille, ça, Jeff? » Oh oui, c'est ma grande Rosalie. Rosalie, viens ici. On va prendre une photo que Jonathan Drouin. Ça va aller dans le Journal de Montréal, ça. Quel âge, Rosalie? 8 ans à cette époque-là. Bon, Rosalie Chaumont, 8 ans, photographier avec Jonathan Drouin. Ça va être parfait, ça. Joe, colle-toi un peu sur Rosalie. Là, Rosalie, elle riait. Elle dit, pourquoi, papa, avec Roger, j'ai le droit de prendre une photo, puis avec toi, il faut que je sois la plus tranquille du monde. Je dis, ouais, ça, c'est Roger. Il avait décidé que ça serait bon pour sa page dans le journal, que ça serait cute d'avoir une petite fille de 8-9 ans photographiée avec Jonathan Drouin. Donc,
il y a pas grand
Rosalie
chose
m'a reparlé
pas,
après son décès, elle s'en souvenait.
Ouais, il n'y a pas grand chose qui n'a pas photographié. Il y avait tout le temps son Kodak avec
non.
Lui, peu importe. Guillaume Roger, toi, je ne sais pas comment ça a pu...
Cette anecdote de GF, ça me rappelle, là, ça fait quelques années que les espoirs de la GMQ font une tournée là, au Centre Bell, une journée, je pense que ça fait 3-4 ans peut-être qu'ils font ça. Ils viennent passer une journée au Centre Bell. Puis il y a toujours une séance d'entrevue avec ces espoirs-là. Puis Roger est toujours là pour sa page. C'était tout partout en ville, la chronique que ça s'appelait. Il y avait des photos d'événements qui s'étaient passés dans la semaine, dans les jours précédents et tout ça. Puis Roger, même si tout le monde était en train de faire une entrevue, puis c'était pas par manque de respect, là, mais... Quand c'était le temps pour Roger de prendre sa photo, tout le monde faisait une pause dans ses entrevues. T'avais beau être en pleine discussion avec Caleb Desnoyers ou peu importe. Là. Caleb, c'est le temps de prendre la photo. Là. Mets-toi là devant le logo du Canadien. Puis là, il plaçait tout le monde. OK, c'est bon. Puis là, c'est Roger qui renaît le show. Puis ça me rappelle la voyons, comment on appelle ça? Quand Guy Lafleur est exposé au Centre Bell.
Ouais.
La chapelle ardente, on était là, puis on s'était fait dire, écoutez, les anciens, c'est sur une base volontaire qu'ils vont venir vous voir dans la salle de conférence. S'ils veulent vous parler, ils vont venir. S'ils veulent pas, ben ils sont pas là, puis ça va être ça. Roger était là, puis à un moment donné, il a décidé de prendre les choses en main parce qu'on attendait dans la salle de conférence, puis il y avait pas grand monde qui venait. Là, Roger a dit... À qui vous voulez parler, là? À qui vous voulez parler? Fait que là, Yvon Lambert, Serge Savard, Yvan Cournoyer. Mais bon, je reviens. Et il est parti, rentré dans le salon des anciens, parce qu'il y avait juste Roger qui pouvait faire ça. C'est,
oui.
c'est pas un endroit accessible aux médias.
C'est que t'arrêtais pas Roger, là, c'est ça. Là, vas-y.
Non, mais cette journée-là, il y a un gardien qui était nouveau, je pense, au Centre Bell, qui a tenté... de dire à Roger, « Non, monsieur, vous n'avez pas le droit d'aller là. » Puis il s'est fait dire assez rapidement par ses supérieurs que c'était correct, Roger va s'occuper de ça. Et Roger était revenu avec Yvon Lambert, Serge Savard, il les prenait par le bras, puis « Ah ouais, il va parler aux médias, il les plaçait devant nous, puis c'était parti, on partait la journée d'entrevue. » Puis tu sais, Roger, c'est pour moi, ça j'ai pas eu de relation proche avec lui, mais je me souviens, la première fois que je l'ai vu, tu sais, je me dis, « Ah, oh, tu sais, c'est imposant, souvent tu vois des gens que tu rencontres des gens que tu vois à la télévision depuis que tu es jeune et tout ça. Puis lui, il m'a croisé, puis « Hey, salut le grand! » Comme si on se connaissait depuis 15 ans. Puis ça fait en sorte qu'après ça, ben, tu le revois, puis à chaque fois, c'est « Salut le grand! » Puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours, puis une petite discussion à gauche, à droite. Fait que c'est vraiment un grand personnage, et Chaumont, t'as raison de dire que c'est le plus grand personnage de 5 pieds 4 qu'on a pu rencontrer au Centre Bell, ça, c'est certain.
C'est un talent qu'il avait de faire comme si il connaissait depuis toujours. Puis tu sais, c'est pas vrai qu'il se souvenait nécessairement de ton nom. C'était impossible à un moment donné. Mais il y avait une façon de faire que il te parlait, puis tout de suite, tu sentais qu'il s'intéressait à ce que tu disais. Il s'intéressait à toi, puis peu importe, puis il naviguait à travers ça. Moi, écoute, mon anecdote, je commence dans le métier, vraiment. Je suis dans un hebdo à Trois-Rivières, un hebdo de Québécois, et ça fait même pas un an que le journal existe en tant que tel. Je débute vraiment, puis on fait un tournoi de baseball, plusieurs hebdos ensemble. Puis c'est à nous à jouer, puis je m'en viens au bâton. Puis moi, comprenez, là, j'ai été élevé dans le baseball. On jouait au baseball matin, midi, soir, l'été, puis tout ça. Je me place au bâton, je me prépare à affronter le lanceur. Puis soudainement, dans les speakers, j'entends Roger, que je sais pas qui est là, là. J'entends Roger qui se met à décrire ma présence. Oh, regardez-les, lui, là, là. Les culottes relevées, les bas. Oh, ça amène au bâton. Puis là, là, moi, dans ma tête, ça va vite, là, parce que je fais, attends une minute, là. C'est le gars que j'entends décrire des matchs depuis que je suis jeune. Il parle de moi. Puis là, toi, t'es journaliste, t'es jeune. Comme tu dis, JF, t'apprends dans le métier assez vite que t'oublies ça, là, tes idoles, puis les gens. T'sais, moi, c'est Jacques Doucet aussi. Moi, j'écoutais le match à la télé quand j'étais jeune. Ma mère m'envoyait me coucher vers la quatrième, cinquième manche, puis je finissais le match à la radio sans qu'elle le sache, avec la radio vraiment pas fort dans la chambre. C'est le même que j'ai grandi. Puis là, t'as Roger qui... Puis après ça, écoute, après ça, on était le voir, mais après ça, Roger, à travers lui, bon, qui était président de la Ligue de baseball junior élite du Québec... Il était souvent à Trois-Rivières, puis on se voyait souvent, puis on jasait. Puis la dernière fois que je l'ai vu, même c'était au hockey, c'était au Lyon de Trois-Rivières, quand les Lyons ont débuté. C'était vraiment un grand parmi les grands, petit parmi les grands, prenez-le comme vous voulez, mais il va avoir laissé une trace incroyable sur dans l'histoire sportive du Québec, assurément. Au revoir, bonsoir, Rogers, bonsoir, tu es parti, mais tu seras surtout pas oublié. Les gars, on se lance hier, match, je disais en début d'émission, en introduction, que c'est vraiment une date qu'on va peut-être encercler au calendrier. Hier, cette victoire des Canadiens après avoir tiré 2-0 contre les Hurricanes, meneur dans l'Est, je vous le rappelle, les Hurricanes, et non seulement tu gagnes hier en revenant de l'arrière, mais les Red Wings, les Bruins, les Penguins et les Islanders ont perdu hier, ce qui fait que ce matin... Le fameux coussin que je parle à tous nos épisodes, il est de retour un petit peu là, chez le Tricolore. On a 88 points, on est troisième dans la section Atlantique. Les plus proches poursuivants, on a 86 points. Les 85, les Sénateurs. Attention, les Sénateurs qui s'en viennent, qui sont dans le portrait des séries, les Islanders. Mais surtout, on a un match en main. Les gars, on va revenir sur le match d'hier quand même. Quand vous regardez ce match-là, oui, on l'a emporté. Oui, on est venu de l'arrière. Mais est-ce que vous avez l'impression pour Martin Saint-Louis, c'était une performance... satisfaisante. Tu sais quoi de ce match-là, là? Même si au final, tu as encore trouvé un moyen de gagner?
Bien, à cette période de l'année, c'est satisfaisant quand tu obtiens les deux points, peu importe la manière. Mais tu peux pas dire non plus mission accomplie à tous les niveaux. Là. Si tu n'as pas vu le match puis tu regardes simplement la feuille de statistiques, tu vois 43 tirs contre 19, 87 tirs tentés contre 45. En première et troisième période, c'était 16-2, 16-4 et 17-4 les tirs. Tu dis, bon, mais victoire facile des Hurricanes. Mais non, celui qui portait les grosses jambières, Jakub Dobesch, a connu un très, 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 très bon match. Puis Saint-Louis l'avait dit le matin, les Hurricanes, c'est une équipe qui attaque au volume. Si tu regardes dans la Ligue nationale, ils sont deuxièmes pour les tirs obtenus. Ils sont également deuxièmes pour l'équipe qui a donné le moins de tirs. Donc, c'est une équipe de possession de rondelles, c'est une équipe d'échecs avant qui frappe, ils sont dans ta face du début à la fin. Mais le Canadien a trouvé de petits ajustements. T'sais, en première période, jamais techniquement tu devais finir cette période-là avec un pointage de 2-1. Oliver Kapanen qui redirige un tir de Struble, si ma mémoire est bonne, pour déjouer Frédéric Anderson. Puis ce trio-là, en première période, leur Corsi là, était à 10%. Donc, leur une fois, ils ont obtenu une tentative de tir en zone adverse, puis c'est le but de Kapanen. Le reste du temps, ils se faisaient manger par les Hurricanes de la Caroline, mais les bons joueurs aussi...
Pour ceux qui ne connaissent pas le Corsi, là, normalement, tu essaies d'être autour de 50%.
Oui, oui, exact.
50%, c'est que tu es moins
c'est un indicateur de possession de rondelles en calculant les tirs tentés quand tu es sur la glace. Donc, c'était pas une très bonne période pour ce trio-là, mais le Canadien a fait de petits ajustements, une meilleure deuxième période. Les Canons ont encore une fois connu quand même un bon match. Le premier trio, Caulfield un but de passe, Slaff un but de passe, Suzuki une passe. Dobson a connu un très bon match. Puis en troisième période, bien, quand ça a recommencé à chauffer, encore une fois, Dobesch s'est levé. Son arrêt contre Logan Stankoven sur une échappée, c'est quelque chose qu'on va retenir de ce match. Tu sais, c'est pas magique parfois, mais quand un gardien qui fait le travail, ça fait une grande, grande, grande différence. Hier, j'ai fait la remise à jour des statistiques. Quand un gardien du CH finit avec un taux d'efficacité de 900 et plus, pas 925, juste 900 et plus, c'est une fiche de 28 victoires, une défaite et trois revers en prolongation ou tir de barrage.
C'est... Je regardais Dobesch, puis je trouve que depuis quoi un mois, je le trouve meilleur dans sa technique. Guillaume
Ses contrôles des retours hier, il était meilleur.
Il progresse, puis Martin Saint-Louis s'est fait poser la question, puis il va se tourner, il dit, bon, ben c'est faudrait demander à notre entraîneur des gardiens, tu peux-tu le faire rentrer? Non, il n'est pas là. Ah, OK, c'est
l'entraîneur c'est des gardiens qui ne parle pas de lui non plus.
Ça. Exactement.
Et même le gardien qui ne parle pas.
Le
aussi,
gardien qui ne parle pas non plus. Gars, il y a présentement, ça va très bien pour Dobesch. Peu importe comment on regarde ça. C'est que Dobesch, il y avait les victoires en début de saison, mais il était souvent tout croche. Puis là, il commence juste à être demi-croche, même pas mal droit. Là. Ça c'est... Guillaume, t'es l'expert gardien. Là, à quel point est-ce que tu as l'impression... Ben moi, je trouve, plus il joue régulièrement, meilleur il est. Pas juste dans ses performances, dans ses victoires, dans ses statistiques, dans sa technique.
Ben oui, hier, il a été extrêmement solide. Tu sais, moi, je retiens l'arrêt contre c'était Jordan Staal en échappée, là, tout de suite après le premier but. Tu sais, ça aurait pu vraiment, en 30 secondes, ça aurait pu faire 2-0 Hurricanes. Là, ça aurait, ben, déjà, ça a fait 2-0 de toute façon, mais à ce moment-là, ça aurait été un bon coup de barre du côté du Canadien. Ça, c'était très important. Puis juste la manière qu'a suivi Staal, c'était vraiment un gardien qui est en confiance, ça paraissait. Là, tu sais, on a souvent vu Jakub Dobesch être complètement déporté dans le sens opposé de la rondelle dans les dernières, je dirais, semaines, mois. Hier, vraiment square, les retours de lancer, pour vrai, c'était une grande, grande amélioration par rapport à ce qu'on a vu récemment. Là. Les rondelles qui étaient facilement gobables, il les gobait, fait que c'était parfait de ce côté-là. Ce que j'ai trouvé un peu fascinant, entre guillemets, dans le match d'hier, c'est que en matinée, Martin Saint-Louis nous parle des Hurricanes, de leur façon de jouer, de leur échec avant, de leur pression. On sait exactement comment les Hurricanes à Caroline vont jouer. Ça fait 7-8 ans qu'ils jouent de cette façon-là. Depuis que Rod Brind'Amour est l'entraîneur, c'est la même formule, la même recette, que ce soit en saison régulière, en séries éliminatoires, les Hurricanes jouent de la même façon. Et en première période, moi, je ne m'explique pas comment cette équipe-là peut sortir
flat
de cette façon-là contre les Hurricanes, parce que tu le savais, tu sais exactement ce qui va se passer. Le long des bandes, le Canadien a dû perdre 95% de ses batailles pour la rondelle le long de la bande. Chaque fois qu'on essayait de chipper en bon français la rondelle par la bande, il y avait un joueur des Hurricanes qui était là pour bloquer le chemin, bloquer la rondelle. Fait que de ce côté-là, moi, c'est vraiment... Là, on rejoue contre les Hurricanes sous peu, là, dimanche, je crois, dimanche prochain.
Ouais. 17 heures.
Il faut que tu sois plus près que ça parce que là, ça n'avait pas de bon sens en première période. De sortir de là avec une marque de 2-1, c'était un miracle. Là. Honnêtement, ça aurait dû être 4-5-0. C'était des tirs. Les tirs de la ligne bleue des Hurricanes étaient toujours dangereux parce qu'il y avait toujours quelqu'un devant le filet pour la faire dévier. Jakub Dobesch a été très, très bon. Puis ça, je pense que c'est un élément sur lequel on a travaillé cette semaine. Les tirs voilés. Je voyais des vidéos circuler, là, les tirs voilés de la ligne bleue.
C'est même
avec un écran.
C'est ça, c'est Samuel Montembeau qui fait l'écran.
On a placé
là,
Samuel Montembeau comme écran. Fait que, tu vois que le travail a été fait en amont, puis on a vu les résultats dans le match d'hier. Donc, Jakub Dobesch, vraiment, c'est une victoire signée par un gardien. Une rare victoire, dirais-je, signée par un gardien cette saison du côté du Canadien. Puis ça fait du bien parce qu'on regardait, moi puis JF, les matchs en parallèle hier soir, puis on voyait comment ça se dessinait, puis je disais, ils peuvent pas échapper ce match-là alors que tout le monde perd. Ça arrive jamais dans cette course aux séries-là dans l'Est. Ça n'arrive jamais que les autres équipes qui sont en course avec les Canadiens se mettent à perdre. Toutes les équipes, la même soirée, le Canadien a réussi à s'en sortir en troisième période. Ça a chauffé, mais on a réussi à fermer la porte alors que la pression s'accentue.
On parlait de Martin Saint-Louis. Trouvez-vous qu'il y a un changement un peu d'attitude? Je regardais les réponses hier après le match. Très court. Avant le match, là, on était en mode, on commence les cachettes de séries éliminatoires. Il reste encore 11 matchs à la saison des Canadiens. Techniquement, on n'y est pas, mais est-ce qu'il y a eu vous sentez qu'il y a un changement d'attitude, un changement de philosophie face à tout ce qui entoure le club? Tu sais, d'ailleurs, que Dobesch ne rencontre pas les médias hier, ça fait très séries éliminatoires, ça aussi, là.
Ouais, ça, Dobesch, c'est peut-être un cas particulier ou un cas différent. Là, Dobesch, il y a quelques occasions cette année où peut-être parler un petit peu trop
pour un
jeune gardien.
Pour une fois, c'était positif. Oui, ouais.
La veille, il avait
parlé. On ne s'obstinera pas là-dessus, Nick, qu'on est tous d'accord.
C'était son meilleur match de la saison. 41 arrêts, ça reste un sommet personnel. Même dans la grande histoire du Canadien, hier, c'était sa 23e victoire. 23 victoires, c'est le même nombre que Patrick Roy à sa saison recrue. C'est pas un record d'équipe, là. C'est Ken Dryden, sa saison recrue à 39. Donc, techniquement, il n'y avait pas de danger hier pour Jakub Dabesh, mais parfois, Jakub trouve le danger lui-même devant un micro. Donc, ça, c'est une autre histoire. L'attitude de Martin Saint-Louis, bien, c'est typique d'un entraîneur qui rentre dans une autre phase. Un petit peu plus de nervosité. Chacun des matchs deviennent. Les matchs vont devenir le plus important jusqu'au prochain. Décide de jouer un peu à la cachette. Mais tu sais, de dire si Josh Anderson va jouer ou pas le soir même, je pense pas que ça change la préparation au grand complet de Rod Brind'Amour. Mais ça, c'est typique. T'sais, Martin Saint-Louis peut le faire, Rod Brind'Amour peut le faire. Peut-être que Rick Bowness le fait aussi à Columbus. Mais Martin Saint-Louis, il faut comprendre, t'sais, oui, il y a peut-être un petit changement d'attitude, mais le matin d'un match, c'est un gars qui est extrêmement routinier. C'est pas sa tasse de thé parler aux médias le matin d'un match, puis encore moins à 5 heures. Mettons, les rares fois où il y a deux matchs en deux jours à Montréal, admettons, puis on doit rencontrer Martin Saint-Louis tout juste avant un match, ça, il aime pas ça. Mais ça fait partie du deal, puis comme journaliste, il faut que tu vives avec cette réalité-là.
Les gars, s'il y en a un pour qui ça a continué d'aller bien hier, Cole Caulfield, qui a encore trouvé le fond du filet. Là, je ne veux pas dire 60 buts, là, mais 50 buts, ça semble, on en parlait la semaine passée, là, mais ça commence à être difficile de ne pas y croire là, de la manière qu'il n'arrête pas de marquer. Nick Suzuki, ça se poursuit. Mais dans l'ombre, il y en a un qui vient de connaître peut-être deux de ses meilleurs matchs de la saison. Assurément, samedi dernier contre les Islanders, 3 points, gros coup d'épaule. Il y en a 2-3 joueurs qui vont s'en souvenir. Kaden Goulet, quand on a parlé de la mauvaise séquence, les Canadiens qui ont eu une mauvaise séquence en Californie, puis tout ça, on donnait 5-7 buts par match, puis tout ça, Goulet n'était pas l'ombre de lui-même. Dire, depuis qu'il est revenu de sa blessure, beaucoup de hauts et de bas. Est-ce qu'enfin, il y a eu le déclic, il a retrouvé ses repères, Kaden Goulet?
Bien, oui, je dirais oui, dans les derniers matchs. Puis Goulet, il s'était confié en disant que cette saison, c'est pas... L'aspect physique qu'il a trouvé le plus difficile de revenir d'une blessure, s'est fait opérer pour les adducteurs. Il dit que c'était vraiment mentalement parce qu'il ne jouait pas au niveau souhaité. Puis dernièrement, on revoit le Kaden Goulet des bons moments. Hier, c'est une vingtaine de minutes, c'est 8 mises en échec. Puis ça, là, au-delà de la quête des 50 buts de Caulfield, des 100 points de Suzuki, peut-être 30 pour Slaff, 30 buts. C'est peut-être la meilleure nouvelle pour le CH si Goulet se replace parce que ça vient tout restabiliser ta ligne bleue. Goulet, en ce moment, forme un bon duo avec Alexandre Carrier. T'as Jaden Struble qui joue des petites minutes encore, mais quand même de bonnes minutes avec Lane Hudson. Puis Goulet en infériorité numérique. C'est un gars aussi qui dit qu'il veut être méchant. Guillaume, je pense, dans une entrevue, il disait qu'il y a une espèce de
prick.
Ouais, exact. Un connard, si on veut. Donc
prick,
je l'ai traduit par connard.
C'était une bonne traduction. J'ai aimé la traduction de Guillaume.
Un baveux, là.
Tu sais, un petit côté chien un peu, t'en as de besoin. Il faut que ça fasse mal parfois quand tu te pointes le nez devant le filet. Puis Goulet a ce côté-là en lui. Mais surtout, lui, c'était de regagner une confiance. Puis là, on est tard dans l'année. C'est ce qu'il semble faire, se replace. puis ça va uniquement aider la brigade défensive.
Surtout que mentalement, Goulet, avec toutes les blessures qu'il y a eues, puis tout ça...
Non, ça peut finir
par
peser.
À un moment donné,
là,
tu te mets à te poser des questions quand tu t'en vas dans le coin, quand ouais. tu... Puis faut pas, là, faut que tu joues avec une liberté mentale qui est purement... Faut que tu te bases sur tes instincts. Tu peux pas te mettre à penser quand tu es sur une glace, là.
Ce que je trouvais intéressant, je lui ai parlé après le match de samedi, puis il disait que en début de semaine dernière, je pense, il est allé regarder des vidéos de ses anciens matchs parce qu'il dit, j'ai tellement raté de temps dans la dernière année que j'en ai oublié ce qui m'avait permis de me rendre ici. Mon style de jeu, mon côté hargneux et tout ça. Fait qu'il a visionné certains de ses anciens matchs, puis pas du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a eu une progression assez rapide dans les matchs qui ont suivi, puis ça, c'est le bon vieux Caden Goulet qu'on voit en ce moment, là, les coups d'épaule, puis les coups de bâton devant le filet, ça, c'est quelque chose qu'on voyait un petit peu moins depuis son retour au jeu, mais là, c'est revenu naturel et revenu au galop.
Oui, puis tu parlais de Carrier. Je trouvais que quand Goulet avait de la misère, Carrier, il y en avait peut-être un petit peu plus qui tombait sur ses épaules, puis ça commence. C'était un petit peu plus difficile pour lui. Fait que là, justement, si on peut avoir une stabilité, Strouble hier, bon match aussi. Tu sauves des minutes à un peu tout le monde ici ou là. Là, je pense que Strouble, du côté de Martin Saint-Louis, on se pose de moins en moins la question si c'est lui ou c'est Arber Jacky qu'on va utiliser un match ou l'autre. Tu sais, si Strouble, il a joué combien de temps hier? J'ai pas vu, là, peut-être.
14.
14. Il est capable de donner 14-15 minutes par match, là, ça va beaucoup aider. Il y en a un qui s'est replacé hier, un peu, Ivan Demidov, un but, une passe, deux points. Ça va faire du bien. Demidov, il n'avait pas de points ses quatre derniers matchs. Tu regardes sa saison, Demidov, là, il produit un peu par séquence, ce qui est normal pour une recrue. À quel point on en demande peut-être trop à Demidov, à Kapanen, sur ce deuxième trio-là où on a besoin d'un deuxième trio qui fournit chez les Canadiens. Puis c'est pas toujours facile pour autant de recrues de se lever à ce moment-là dans une situation comme ça où on devrait peut-être être sur une équipe qui se dirige peut-être sur un rythme de 100 points. Là. Ce deuxième trio-là, normalement, ce serait un troisième trio. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais, ben la perte de Slafkovský qui est retourné sur le premier trio, je pense que ça a quand même beaucoup affecté ce trio-là. On dirait que dans les derniers matchs, on se passait souvent le commentaire, ça prend quelqu'un pour aller chercher la rondelle, pour permettre à ces joueurs-là de s'exprimer offensivement. T'sais, Kapanen est combatif, mais c'est pas un Juraj Slafkovský dans les coins. C'est pas quelqu'un qui va distribuer la rondelle à Ivan Demidov qui va lui permettre de vraiment mettre en valeur tous ses outils. Hier, première moitié du match, très ordinaire. À l'instar de l'équipe, disons-le.
Ouais, c'est ça.
Mais même en début de deuxième période, sur un jeu de puissance, Demidov a eu quelques touches, mais c'était rien de convaincant. Je n'ai même passé le commentaire à GF. J'ai dit ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis là, c'est fait frapper par Walker sur un jeu anodin, un jeu d'obstruction, un petit coup de bâton derrière la cuisse. Tourné au banc, il est en douleur. Et puis après ça, ça a été complètement transformé. Le premier chiffre qu'il a fait, il est allé frapper Walker premièrement. Après ça, il a dribblé avec la rondelle entre ses patins, entre trois joueurs des Hurricanes. Un petit tour au banc, revient, se moque de Jaden Chatfield au moins cinq fois sur la même séquence. Là, dribble entre ses patins, c'était le Demidov show. Et après ça, termine ça avec... une percée qui rate devant Anderson, puis après ça, une échappée marque le quatrième but. On a vraiment vu une différence à partir de ce moment-là. Puis après le match, on lui a parlé, puis dans son anglais approximatif, il dit « I was a little mad ». Tu sais, je me suis un peu fâché après cette mise en échec-là. Puis il dit « ça m'a donné de l'énergie ». Bon, fait que sachez-le. Quand on frappe Ivan Demidov, quand on le fâche un petit peu, c'est ce que ça donne comme résultat. C'est peut-être ce que ça lui prenait, puis Martin Saint-Louis l'a souligné, là, dans une longue saison, dans le cours d'un match, des fois, se faire piquer comme ça, ben ça allume quelque chose, puis c'est ce que tu as besoin là, pour ranimer la flamme un peu là, quand tu passes à travers des moments plus difficiles. Fait que visiblement, hier, ça l'a fait pour Ivan Demidov, puis on va espérer que ça se poursuive contre Columbus, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Hurricanes, c'est une équipe de série, c'est une équipe de pression et tout ça. C'était un match difficile pour une recrue, puis il a réussi à faire ce qu'il a fait en deuxième moitié de match. Donc, si ça se poursuit comme ça dans la course aux séries, puis avec les séries qui s'en viennent, ben c'est très, très encourageant pour le Canadien.
Mais est-ce qu'il est capable d'aller chercher ce niveau d'urgence, d'intensité, d'implication dans le match sur une base régulière? Est-ce que c'est ça le plus gros défi présentement à Demidov? Puis là, on est en train de chercher des défauts là, quand même. Là. Soyons francs, comme je disais tantôt, c'est une recrue. Mais est-ce que c'est ça la prochaine étape pour Demidov?
Mais ça reste un défi pour n'importe quel jeune de la Ligue nationale. Mais en plus, si tu regardes son trio, oui, techniquement, on parle du deuxième trio, mais en termes de temps de jeu, là, le deuxième trio, c'est Jake Evans avec Texier et Zachary Bolduc. Puis tu demandes à Demidov de te débrouiller pratiquement seul. T'sais, oui, Kapanen, c'est un marqueur d'une vingtaine de buts cette année. Alex Newhook, qui reste Alex Newhook, c'est jamais un gars qui va générer le plus d'offensive. Donc, il n'y a plus le gros Juraj Slafkovský au sein de ce trio-là. Puis ça fait mal à l'unité de Kapanen et au duo Kapanen-Demidov. Donc, tu lui en demandes de prendre de grosses responsabilités en étant celui qui devra peut-être traîner le trio. Le temps d'un soir contre les Hurricanes, il y a eu des jeux individuels où c'est Demidov qui traînait le trio. Tu sais, Guillaume a parlé de Chatfield, il l'a déjoué trois fois pour finalement se frayer un chemin jusqu'à Anderson. Mais quand Keandre Miller perd la rondelle à ligne bleue, il y a le temps de voir que c'est Demidov qui est devant lui. Fait que ça, il est peut-être devenu nerveux, même s'il a de l'expérience. Keandre Miller s'est enfargé, puis le 93 était parti, puis c'était bonsoir, il est en échappé. Donc oui, c'est quand même une mission difficile, celle de produire soir après soir avec Kapanen et Newhook.
Puis il n'y a pas tant d'autres options. Tu sais, pour aller chercher,
peut-être
on
Texier,
parlait de
Je serais curieux d'interchanger parfois Texier versus Newhook, là, si tu veux amener un petit peu plus d'offensif.
Texier, honnêtement, depuis qu'il est de retour en santé, là, il y a du jump. Puis il s'implique dans le jeu, il y a des beaux flashs offensifs. T'sais, moi, j'hésiterais pas à essayer ça, mais je pense peut-être que Martin Saint-Louis aime beaucoup son trio aussi avec Evans puis Bolduc.
Il veut miser sur de la stabilité à l'aube des séries aussi.
C'est qu'il manque un gros bonhomme qui ferait Slafkovský. Je ne veux pas dire Slafkovský des pauvres, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Non, mais il manque un deuxième Slafkovský dans l'équipe. Si tu veux le faire jouer sur deux trios, ça serait encore mieux, mais ça n'arrivera pas.
Puis ça va prendre un Slafkovský. Ça va en prendre un deuxième pour aller loin en séries éliminatoires, probablement à moyen long terme. Là, on parle probablement pas pour cette année, mais éventuellement, là, on parlait d'un deuxième centre, là, mais en même temps, je trouve qu'il y a une rotation de centre présentement que ça fonctionne. Jake Evans, c'est un soir qui va bien. L'autre soir, Kapanen va bien. L'autre soir, c'est Dano qui fait le travail. Sans avoir un deuxième centre de qualité, on a une belle rotation, mais il manque ce gros bonhomme-là qui pourrait être sur le deuxième trio. Mais là, ça sera pas pour cette année, ça, c'est sûr. Hey, les Hurricanes, là, parce que là, le tricolore va être en Caroline dimanche. Vous les avez regardés jouer hier. Ils sont premiers dans la sécession de l'Est. Mais en même temps, cette équipe-là, quand vous regardez son style de jeu, vous regardez qui est là devant les filets, de toute évidence, ça sera pas Frederick Anderson qui va être le gardien en séries éliminatoires avec la saison qu'il connaît. Je veux dire, c'est pas mal la fin là, pour Anderson au niveau de l'époque que c'était un gardien d'élite dans la Ligue. Brendan Bossy, écoute, on lui souhaite bonne chance. Il a une super belle saison. Ses statistiques, par contre, c'est plus ou moins grec. Cette équipe-là est-elle capable d'aller loin en séries éliminatoires? Surtout avec ce qu'on a vu dans les dernières années. Oui, on gagne une ronde. Chaque année, on gagne une ronde. Mais on n'est jamais capable d'aller plus loin que ça. Des fois, on va y aller en finale d'association, mais on dirait qu'il y a un plafond, cette équipe-là, puis on n'a pas fait de changement à la date limite des transactions, donc c'est le même noyau, c'est la même structure,
On a peut-être un secret, là, une carte dans la manche. Là, on cache Jesperi Kotkaniemi depuis longtemps.
On le cache très bien.
les gradins, je pense, 13 des 14 derniers matchs là, maintenant.
À la cachette, là, il serait excellent présentement.
Oui. Mais tu sais, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de profondeur. Quand tu as Nikolaj Ehlers à l'aile d'un troisième trio avec Stahl, Martinuk, la deuxième trio... Taylor Hall est encore dans la ligue. Hier, avait un bon match dans le corps. Taylor Hall avec Logan Stankoven, Jackson Blake, Jacob Slavin, un des bons défenseurs de la ligue. Mm-hmm. Tony Kishin sur un troisième duo à ligne bleue. C'est une équipe qui a quand même beaucoup de ressources, mais c'est une formation aussi qui me laisse un petit peu indifférent. C'est Les Hurricanes de la Caroline. Tu sais, j'ai fait un bruit de bouche à la Michel Therrien. C'est un hommage à Michel ce matin. Mais je sais pas. Aho, Svechnikov, Jarvis, hier, ils n'ont pas eu de points, mais ils ont quand même eu plusieurs chances de. Ben, non, c'est pas vrai. Jarvis a marqué. Aho n'a pas eu de points, mais ils ont eu plusieurs chances de marquer. C'est ben, une équipe à la sauce Rod Brind'Amo. C'est très. Tu sais, oui, ils sont dans ta face. Ils sont intenses. Mais t'es pas au bout de ton siège quand tu regardes les Hurricanes.
Non, puis en séries éliminatoires, pour avoir fait une petite saucette du côté de la Caroline l'an dernier, c'est une équipe qui a un style de série, mais qui n'a pas nécessairement tous les outils pour jouer ce style-là. Tu sais, contre les Panthers de la Floride, c'était assez flagrant. Tu avais deux équipes qui jouaient d'une façon très, très structurée, mais il y en avait une qui avait des éléments pour le faire puis pour frapper à répétition et tout ça. Les Hurricanes, on dirait, c'est une équipe qui manque un peu de chien, un peu de caractère. On a acquis Nicolas Deslauriers, joué seulement un match depuis son arrivée. Peut-être qu'en série, ça va être un élément sur lequel on va pouvoir compter un petit peu plus régulièrement, mais...
William Carrier aussi, non?
Ouais, okay. William Carrier était là l'an dernier aussi, mais tu sais, je pense que le fait d'évoluer dans la métropolitaine, ça leur ouvre peut-être le chemin un petit peu plus grand que s'ils étaient dans l'Atlantique. C'est certain, tu sais, je m'attends à voir les Hurricanes au moins en deuxième ronde. Puis après ça, ben, t'es à une ronde de la finale de l'Est. Fait que c'est une équipe qui est parvenue à la finale de l'Est deux fois dans les trois dernières années quand même. On cogne à la porte, mais encore une fois, j'ai de la misère à voir cette équipe-là passer à la prochaine étape parce que, justement, il manque certains outils là, qui sont très importants en séries éliminatoires.
Leur défense, Shane Gottesbeer, n'était pas là hier. C'est un défenseur qui a quand même reconnu un retour en force. Je ne veux pas dire une renaissance, mais pas loin. Là. Souvenez-vous, à la fin, c'était pas drôle là, pendant quelques années à Philadelphie. Tony Kishin qui s'est ajouté cette année. Dans le fond, puis tu rajoutes Nick Ehlers qu'on a ajouté sur le marché. C'est ça les nouveaux, le nouveau noyau, du moins les ajouts au noyau des Hurricanes qui font qu'on pense peut-être aller jusqu'au bout. On n'a pas bougé. Mais ouais, manque de chien. Manque un Brad Marchand. Manque un joueur comme ça qui, qui s'est ajouté l'année dernière aux Panthers puis qui ça a fait une grosse différence en séries éliminatoires. Il manque ce oomph-là pour utiliser un terme de la sorte. La course aux séries des Canadiens de Montréal, puis tout ça, ça se poursuit jeudi avec la venue à Montréal des Blue Jackets de Columbus. Comme je disais en intro, une des deux équipes de l'heure depuis le début de l'année 2026 dans la Ligue nationale de hockey. Il faut parler d'eux autres. Puis on l'accueille avec nous. Il est l'analyste des matchs des Blue Jackets, Jean-Luc Grandpierre. Salut Jean-Luc.
Salut Nicolas, ça va bien?
Ça va super bien. Écoute, merci d'être là. Tu es à Philadelphie où les Blue Jackets jouaient hier dans un hôtel. Tu n'as pas d'électricité. Ils vous ont coupé à peu près tout ce que vous pouviez avoir dans l'hôtel. Tu as quand même réussi à trouver un moyen d'être avec nous ce matin. Un gars fiable, Jean-Luc. Merci d'être là dans ton hôtel en rénovation. Ils vous ont causé une belle petite surprise.
Ouais, belle petite surprise. Écoute, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ils ont cogné à la porte hier avant le match, puis ils ont donné ça, puis on pense à tout, on oublie ça. Puis il y a tellement de fenêtres dans ma chambre, j'ai 4 sets de fenêtres, fait que je me suis dit, pas besoin de lampe de poche, je vais être correct. Puis ce matin, j'étais au téléphone avec ma femme, puis je suis allé brosser mes dents, puis c'est dans le couloir là-bas. Les chambres sont grosses, c'est ça, il fait tellement noir. Hey, j'ai une chance que j'avais la lampe de poche parce que je vais pas finir ma batterie de téléphone, fait que c'est venu Andy, mais écoute, On est correct.
On dirait vieux truc dans les années 70-80 dans les chambres d'hôtel pour les équipes, mais là, on n'est même pas en série là, pour dans le temps qu'ils coupaient ou ils peinturaient les chambres ou coupaient l'électricité. Là, on en a vu dans...
Surtout à Philadelphie.
Oui, c'est
surtout
ça.
Surtout à Philadelphie. Je m'en souviens, quand j'étais ici avec les Sabres en 99-2000, je pense l'année qu'on est allé en finale de la Coupe Stanley ou l'année d'avant, je m'en souviens, j'étais avec l'équipe. Puis on était resté à un aéroport, là, même pas proche du centre-ville, parce qu'ils savaient comment ils faisaient ça à Philadelphie. Fait qu'on est allé à un aéroport proche de l'aéroport, à l'hôtel proche de l'aéroport. Puis je te mens pas, la journée avant le match, pendant la nuit, à 2 h du matin, l'alarme dans l'hôtel est part, puis ils ont fait sortir tout le monde dehors. puis tu te dis, là, c'est quoi les chances? C'est mais tu sais, à Philadelphie, là, ils niaisent pas avec ça. Fait que, ouais, on a déjà nos deux points. Fait que je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Là,
ben oui, c'est ça. Ils sont en retard, là. C'était de faire ça hier. Mettre un peu de sable sur le tapis avant le match, puis tout ça, ouais. Là, avant d'entrer. Écoute, jamais j'aurais pensé, Jean-Luc, qu'on se parlerait aujourd'hui, puis les mots séries éliminatoires seraient dans mon vocabulaire. Quand on a congédié Dean Evason, on amène Rick Bowness. Peux-tu m'expliquer, là, je sais qu'on recule de deux mois, puis tout ça, les deux derniers mois, mais peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé avec cette équipe-là, avec l'arrivée de Rick Bowness? C'est un tournant tellement impressionnant.
Écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, écoute, il n'y a pas eu de changement de personnel, il n'y a pas eu de changement de gardien de but, vraiment rien de grosse différence. C'est simplement, je pense que Rick Bowness, tu regardes les Blue Jackets à Star défensivement, c'est une histoire complètement différente. C'est pas juste les défenseurs, c'est pas juste les gardiens de but, c'est en tant que groupe, leur habileté de limiter les chances. Puis tu sais, quand Rick Bowness est arrivé, on a dit « Ouais, mais comment tu vas faire ça? » Parce que tu peux pas, t'as pas vraiment le temps de pratiquer cette saison. Puis il est arrivé juste avant le break olympique. Puis il a fait du beau travail. On n'a pas vu une grosse élimination des chances de marquer immédiatement. Mais je pense que pendant le break olympique, pendant qu'ils faisaient leur pratique, c'est là qu'il a vraiment implanté son système. Puis c'est là que c'est devenu une équipe complètement différente. Alors, offensivement, on compte pas plus de buts. L'avantage numérique va un petit peu mieux, mais c'est rien de spectaculaire. Mais défensivement, tu regardes les chances de marquer des autres équipes contre nous autres, c'est presque, je dirais, au moins 50% moins de chances de compter des autres équipes qui ont été accordées. Fait que c'est vraiment le système défensif qui a implémenté, il fonctionne vraiment bien.
Il doit avoir une plus grande attention. Je recule, les deux dernières années des Blue Jackets, là, c'est beaucoup de vagues, tu sais, avec tout ce qui est passé, Johnny Gaudreau, puis tout ça, où on a peut-être fonctionné un peu l'année dernière sur l'énergie, l'adrénaline de tout ça. Puis quand tu commences une nouvelle saison comme ça, moi, je m'attendais à ce que les Blue Jackets, ça retombe. Puis c'est ça qui s'est passé en première moitié de saison. Est-ce qu'on devait revenir à ce qu'on doit faire dans les attentions, les petits détails, le leadership qu'on faisait pas? Oui, on essayait de marquer des buts, mais c'était pas ça qu'il fallait faire.
Oui, exactement. Puis tu sais, c'est quand une équipe, tu sais, je vais le comparer au Canadien de Montréal, c'est probablement une équipe offensivement qui est la plus dynamique. Quand un match est ouvert, tu joues contre le Canadien de Montréal, bonne chance, tu vas te faire manger. On l'a vu, les Islanders l'ont essayé en troisième période au dernier match. Tout allait bien, ils ont joué dans leur structure, puis en troisième, le match a ouvert un peu. Puis ça... Les Blue Jackets, ils jouaient de même, mais tu sais, ils jouaient de même tous les soirs. Fait que oui, ça comptait des buts, 6 buts, 7 buts l'an passé sans arrêt, mais on en donnait 5, 6 également. Fait que tu sais, si tu veux être une équipe gagnante, t'as pas besoin d'être nécessairement une équipe excitante. Puis ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Tu sais, les matchs excitants, nous autres, les analystes, on aime ça, les journalistes aiment ça, les fans aiment ça, mais on va te dire, pour un entraîneur puis un entraîneur vidéo, c'est un cauchemar. Fait que je pense que c'est une question de, oui, on aime les matchs excitants, mais c'est quoi notre but? C'est de se rendre en série éliminatoire, puis il faut jouer du hockey défensif. Puis je pense vraiment que Rick Bowness, il a implanté un système qui peut donner du succès offensif, mais défensivement, quand on n'a pas la rondelle, il veut que les 20 joueurs jouent de la même façon. Il n'y a pas de spécial, un traitement spécial pour Marchenko parce que tu es sa première ligne puis tu es dans le compteur. Ça ne dérange pas, c'est quoi ton rôle? Défensivement, quand on n'a pas la rondelle, il faut tout qu'on se ressemble, puis c'est ça qui fonctionne en ce moment.
Moi, je suis curieux de savoir, ça fait une couple de fois, Jean-Luc, que tu nous parles de Rick Bowness. Il a resserré son système, il a profité de la pause olympique pour travailler avec ses joueurs. Ça ressemble à quoi, dealer avec Rick Bowness? Techniquement, c'est un homme qui était à la retraite, âgé, plus de 70 ouais. ans. On a déjà mentionné au balado, là, quand tu as été joueur-entraîneur avec le Canadien de Sherbrooke, c'est que tu as du vécu. Là. Tu remontes à loin. Le quotidien avec Rick Bowness, moi, comme journaliste, c'est même chose pour Guillaume, Nick, on l'a toujours trouvé hyper sympathique. Quand tu deals avec lui à tous les jours, ça ressemble à quoi?
Il est super. Il n'a pas changé. Écoute, il parle tout le temps de sa femme Judy. C'est tellement... Moi, je trouve ça ouais, tellement vrai. Romantique de voir un gars de 70 ans quasiment. Puis, tu sais, à chaque interview, le nom de Judy va sortir. Ça dérange pas c'est quoi la question. Il va sortir le nom de sa femme. Tu sais, c'est un old school. Les gars l'adorent, que ce soit les joueurs, les journalistes, les gens qui couvrent l'équipe. C'est un style différent. Puis, moi, je ne connaissais pas gros que Rick Bowness, j'ai joué contre mais en tant que joueur, mais j'y ai parlé une couple de fois. Puis, tu sais, il y a une joie de vivre quasiment innocente. On dirait un coach de 20 ans encore, malgré le fait qu'il soit beaucoup plus âgé. Mais c'est un gars que je me souviens, ben, gars, je vais vous donner un exemple. Le premier match qu'on est allé sur la route, on gagne le match, puis il y a un autobus pour les entraîneurs, puis les employés des équipes. De l'équipe, puis il y a un autobus pour les joueurs. Fait que notre autobus avec les coachs, puis tout ça, tu sais, on s'en va, on sort. Puis il regarde, il dit, tabarouette, c'est donc bien tranquille ici, on dirait qu'on vient de perdre encore. Puis il dit, hey, mets de la musique. Puis là, depuis ce temps-là, il y a de la musique dans le boss, ça ne dérange pas. Si on gagne, si on perd, il met de la musique, il veut que tout le monde soit content. Tu sais, c'est un gars qui a tellement une bonne énergie que, écoute, tu peux pas être de mauvaise humeur quand tu es autour de lui. Fait qu'il est vraiment, le fun d'être autour, Jean-François.
Il s'essaye-tu encore à parler un petit peu français avec toi ou.
Non, moi, je vais juste parler en anglais. Je n'ai pas essayé de français encore avec, sérieusement, mais je n'étais pas au courant. Fait que je parlais français.
Ben, il est originaire de Moncton, puis il se débrouille. Ben, il se débrouillait, là, ça fait longtemps.
Il se débrouillait,
je sais que, ouais. Quand je l'avais vu, un moment donné, c'était François Gagnon qui était allé le voir, puis il disait bonjour François, puis il s'exprime. Je crois qu'il s'exprime. Je ne sais plus à quel point, mais il fut une époque, là, il parlait un peu en français. Mais c'est un player's coach, puis c'est peut-être ça que ça prenait pour changer la dynamique au-delà du système, au-delà des Olympiques, puis tout ça.
Ouais.
Dean Evason, en tout cas, nous, on le voit, je fais du pupitre à lnh.com, puis chaque fois que j'ai tenté de trouver une photo de Dean Evason avec un sourire, j'ai tout le temps échoué. ça arrive pas. Peut-être que toi, au quotidien, tu le voyais, mais sur photo. Et t'as Rick Bowness, tu l'as décrit, un grand romantique, puis tout ça. Tu pouvais difficilement plus changer, j'ai l'impression, la dynamique dans le vestiaire en emmenant un Rick Bowness. Puis c'est un peu ça aussi qu'on voulait là, du côté de la direction. Là.
Oui, puis non. Sérieusement, Dean Evason, autant qu'il souriait pas, c'est un gars jovial.
Ah, OK.
Quand la caméra n'était pas là, il riait, puis il aimait ça avoir du fun. Puis il s'entendait, tu sais, il avait du fun avec les joueurs. Tu sais, c'était vraiment. Si je me dirais quasiment que je pense que l'attitude était peut-être un petit peu trop relaxe avec Dean Evason quand il était là, sérieusement. Fait que, c'est pour ça que quand tu vois un entraîneur à sa caméra puis son intensité, tu sais, c'est un ancien joueur, ça, il était complètement différent. Tu te dis, mais je pense que les joueurs avaient besoin d'un petit peu plus de structure. Puis je pense que Rick Bowness a également amené ça. Avec Dean Evason, c'est un bon entraîneur, un bon motivateur, mais tu sais, les détails, les petits détails. Tu commençais à sentir une frustration de la partie des joueurs. Fait que pour moi, c'est ça, mais de dire que Dean Evason, c'est pas un player's coach, ce serait complètement faux parce que je peux te dire que les gars, ils l'aimaient en maudit, surtout l'année passée, puis cette année, ils ont eu du fun avec. Fait que c'est un très bon entraîneur. Malheureusement, je pense qu'on a besoin d'un petit peu plus de détails, puis c'est ça que Rick Bowness a emmené.
Je trouve ça intéressant. Genre, jamais ouais. J'aurais pensé que c'était ça. Fait que, OK, ben c'était intéressant
ouais,
de voir
ouais,
ça.
Ouais.
Guillaume, où tu
allais dire? Ouais, je suis curieux de t'entendre sur Adam Fantilli parce qu'en début de saison, on regardait ça de loin puis ça avait l'air assez difficile. On avait des doutes sur sa progression. Est-ce qu'elle est capable de produire plus que l'année passée? Puis là, depuis que l'arrivée de Bowness, c'est un point par match, son différentiel aussi, il y a une grosse différence de ce côté-là. Qu'est-ce que tu as vu dans sa transformation peut-être en cours de saison?
Fantilli, tu sais, c'est bizarre. Je comprends pas exactement qu'est-ce que c'est. L'année passée, il était sur la deuxième ligne. C'était Monahan, sa première. Monahan s'est blessé. On l'a mis sur la première ligne. Puis tu regardes la deuxième moitié de saison de Fantilli, il a explosé offensivement. Puis cette année, il a commencé sa première ligne, puis il était tranquille. Puis une fois que la deuxième partie de la saison est arrivée, il explose encore. Fait que je pourrais pas dire que c'est nécessairement l'arrivée de Rick Bowness qui l'a aidé offensivement. Je pense que défensivement, ça l'a vraiment aidé, par exemple. Tu regardes Astor, c'est vraiment un joueur des deux sens de la patinoire. Il fait la bonne chose. Il pense défensif en premier. Puis ça, c'est un, avoir Rick Bowness, ça aide. Mais également, tu regardes des gars comme Charlie Coyle, qui a tellement de succès offensivement cette saison, puis tu parles d'un gars qui triche pas pour de l'offensive, c'est Charlie Coyle. Je pense pour Fantilli d'être entouré avec des gars comme Monahan puis Coyle, qui sont des joueurs de centre également, puis qu'ils ne trichent jamais offensivement pour avoir des points, puis ils ont quand même du succès. Je pense que c'est... En tant que coach, je peux dire qu'est-ce que tu veux. Hey, fais ça, ça va fonctionner, fais ça, ça va fonctionner. Mais la preuve est dans le pudding, là, comme on dit en anglais. Là, tu vois les deux autres qui ont du succès offensivement, puis ça fonctionne. Peut-être que tu commences à changer ta façon de voir également. Puis dans le cas de Fantilli, c'est ça qui arrive. Puis l'autre chose, avant le break olympique, il était pas capable de compter de but. Il frappait des poteaux, il tirait, il se faisait arrêter sans arrêt, puis depuis le retour olympique, c'est boum, boum, boum. Je pense qu'il y a eu un but en 19 matchs, quelque chose de même, avant la pause olympique. Mais il jouait bien, puis là, après la pause olympique, ça a complètement débloqué. Fait que je sais pas si c'est nécessairement Rick Bowness ou c'est juste carrément de la malchance. Puis évidemment, pour Adam Fantilli, défensivement, je vais vous dire, Rick Bowness l'a changé. Fait que défensivement, c'est là que je vois la grosse différence avec lui.
On n'a pas le choix de te parler de Zach Werenski aussi. C'est probablement un des très, très, très sérieux candidats pour le Norris, si c'est pas un candidat pour le Hart. À quel point Zach Werenski est un des grands responsables de cette poussée-là des Blue Jackets de Columbus?
Ben oui, c'est Zach qui fait tout. Tu sais, c'est... Écoute, je vais vous donner le meilleur exemple. Hier, on jouait à Philadelphie. C'était pas beau à voir la première période. Si c'était pas Jed Grieve qui avait fait des arrêts, puis lancé de punition, échappé, c'était à gauche, à droite. Puis on est allé dans la chambre, c'était 1-0 pour Philadelphie. Puis je te dis, dès que la deuxième période a commencé, Zach, il a dit, OK, je vous mets sur mon dos. Puis en dans 3 minutes, je pense, il a fait une entrée de zone, l'a donné à Olivier, Olivier compte. Puis je pense, deux présences plus tard, il compte le but pour le faire 2-1. Tu sais, Zach Werenski, c'est un joueur, il a de l'air nonchalant quand tu le regardes. Parce que c'est tellement un bon patineur que... Quand tu le regardes patiner puis il est en repli défensif, on dirait qu'il est en train de patiner sur le canal rideau. Tu sais, il prend comme s'il était avec sa blonde puis ça tenait à la main, mais il rattrape tout le monde pareil. Tu sais, c'est simplement son style d'agressivité. Tu sais, c'est pas un gars qui a de l'air. Il est tellement contrôlé dans tout ce qu'il fait puis il est tellement calme que c'est quelque chose d'autre qui est très, très important pour cette équipe-là. Ça dérange pas, c'est quoi la situation, il est sa piste noire, puis il va tout calmer l'atmosphère, tu comprends-tu? Ouais. Si on a besoin de ralentir le jeu, il va le ralentir. Si on a besoin de pousser, il peut le pousser. Fait que c'est vraiment, pour moi, tu sais, c'est le MVP, le joueur le plus, attends un peu, je perds mes mots des fois, le plus utile à des Blue Jackets, il n'y a aucun doute cette saison, c'est sûr.
Je regardais, c'est drôle, parce que justement, je faisais la game hier des Jackets Flyers, puis... Le but d'Olivier, là, c'est exactement ce que tu décris. T'as les Flyers sont complètement hypnotisés parce qu'ils arrivent lentement, ils rentrent en zone, il n'y a personne qui va dessus parce que tu le regardes puis il patine un peu de côté, il a l'air justement un peu escapade, là. Puis soudainement, boum, il a attiré tout le monde, il retrouve Olivier, puis Mathieu Olivier qui marque. D'ailleurs, Mathieu Olivier, là, un petit mot sur les Québécois, mais jamais repêché, puis tout ça, il a de l'air, puis lui aussi, ses statistiques depuis l'arrivée de Bowness, c'est en hausse, je pense qu'il y a comme 3-4 buts là, dans les 6-7 derniers matchs. Mathieu Olivier, quel impact il a pour cette équipe-là comme leader, puis tout ce qu'il fait là, au point et au point?
Ah ouais, c'est incroyable. Mathieu Olivier, je vous dirais, l'année passée, quand Dean Everson est arrivé, Dean, il aimait Mathieu. Il a dit, toi, t'es pas un joueur de quatrième trio. Je vais te donner plus de glace, plus de responsabilité. Fait qu'il a commencé à jouer en désavantage numérique, 5 contre 5, toutes les situations défensives. Puis il a comme formé un très bon trio. Puis là, cette année, avec Coil puis Sillinger, c'est notre trio numéro 1 défensif. Fait que si on joue contre la Caroline, c'est qui joue contre la ligne de Sébastien Aho? C'est la ligne à Mathieu Olivier. Fait que, tu sais, il y a tous les gros match-ups. On joue contre Colorado, c'est eux autres qui jouent contre Nathan McKinnon. Fait que, tu sais, c'est notre troisième trio, mais c'est vraiment pas notre troisième trio parce que c'est, tu sais, ils sont sur la glace pour partir le match, ils sont sur la glace dans les situations difficiles. Puis, pour Olivier, je pense qu'il s'est trouvé un rôle dans la Ligue nationale où c'est clairement un des plus toughs, là, des plus toughs 2-3 dans la Ligue. Mais, tu sais, je suis rendu à un point où, tu sais, Mathieu, il a pas peur de se battre, puis il veut se battre. Mais des fois, je me dis, hey, arrête, on n'a pas besoin que tu te battes. Comme l'autre jour contre Caroline, on menait 5-1. Tu sais, son assignement, c'était de jouer contre la ligne à haut, Puis le match était 2-1, je pense, quand on s'est battu avec Nick Delaurier. Puis je me dis, ah, non, 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 on n'a pas besoin de bataille, on a besoin de toi sur la glace parce que tu es en train de maîtriser l'autre équipe. Fait que d'avoir le luxe d'avoir un joueur comme ça, c'est vraiment incroyable. Puis tu penses son hockey IQ, il est tellement haut également. Fait que pour moi, c'est un gars qui il va juste continuer de s'améliorer saison après saison, malgré le fait que tu sais, il a plus 20 ans nécessairement, mais c'est un gars qui est tellement jeune quand tu parles de la Ligue nationale, il va juste continuer à s'améliorer.
Ouais, puis c'est un gars qui a progressé tellement tardivement. C'est l'exemple, je veux dire, comme je dis, il n'a jamais été repêché, puis tout ça. Puis, en terminant, Jean-Luc, cette équipe-là, on suit les Canadiens ici, puis on se demandait cette année si la participation aux séries éliminatoires, c'était une page qui s'était tournée sur la reconstruction. On est rendu au prochain niveau. De la manière que les Blue Jackets là, jouent présentement, on commence à se dire ça. Si on fait les séries éliminatoires encore plus, est-ce qu'on a passé au prochain niveau de cette reconstruction-là avec tous les jeunes joueurs qu'on a dans cette équipe?
Aïe, aïe, aïe. Tu parles du Canadien ou des
Blue Jackets? Non, les Blue Jackets. Les Blue Jackets.
Ah, Blue Jackets, je dirais ouais. Je pense que oui. Écoute, si tu regardes, je pense que cette saison, la saison où on va avoir le moins de points par un joueur recru, simplement parce qu'on n'a pas. Écoute, le seul joueur recru que je pourrais dire, c'est Danton Matejchuk, défenseur numéro 5, qui va être un excellent défenseur. Mais tu sais, il a joué 42 matchs la saison passée. Fait que, tu sais, cette année, il y a personne qui est à leur première année dans la Ligue nationale à temps plein, vraiment, à part Jed Greave, notre gardien. C'est vraiment la seule recrue, Jed Greave, en ce moment, puis il y a toute une saison. Fait que je pense qu'on est prêt à passer à la prochaine passe. Mais là, cet été, évidemment, il va y avoir des contrats, des situations de contrats. Mason Marchment, Charlie Coyle, Eric Goodbranson, le captain Boone Jenner. Alors, tu sais, c'est autant que tu peux dire, oui, on est prêt pour la prochaine étape. Ça dépend qu'est-ce qui se passe cet été, qui va revenir, etc. Alors, mais je crois, puis l'autre chose, je pense que ce serait important de retenir les services de Rick Bonus, au moins pour une autre saison. Parce que, écoute, Rick Bonus, il est comme venu à la dernière seconde, je vais venir finir l'année, voir comment ça va. Est-ce qu'il va être prêt à retenir la saison prochaine? Personne ne le sait encore, mais en ce moment, il y a du fun. Il est en santé, il n'y a pas de problème de santé, fait qu'on espère qu'il revient. Fait que je dirais, oui, on est prêt à la prochaine étape du côté des Blue Jackets, mais ça va pas être facile.
On va souhaiter qu'il laisse son bateau amarré, là, OK, là, puis qu'on...
Ben ouais.
Il était sur son bateau quand il s'est fait appeler par l'équipe.
Il était sur son bateau. Il a tout l'été pour tourner sur son bateau.
C'est ça, il ira à pêche d'été.
C'est pas grave. Ben ouais.
Hey Jean-Luc, merci beaucoup. Écoute, puis on te voit jeudi du côté du Centre Bell. Merci parce que... C'est tout le temps plus difficile des fois d'avoir des takes sur d'autres équipes, mais toi, t'es là, t'es à Columbus, puis tu peux nous parler en français, on l'apprécie beaucoup.
Et puis moi, je veux juste ajouter, Jean-Luc, tantôt, tu disais que Rick, c'est un grand romantique, mais juste pour t'aider, avant qu'on rentre en onde, tu nous as aussi parlé de ta femme, comme quoi tu l'avais téléphoné ce matin, donc Jean-Luc aussi, t'as du Rick Bonus dans l'âme, un grand romantique.
Ah, oh, vous êtes drôles, ça. On se voit jeudi.
C'est bon. Jeudi.
Salut.
Salut.
Messieurs, on va parler de la course aux séries éliminatoires. Il y a plusieurs équipes qui cognent à la porte présentement. Les Sabres, oui, c'est parti, là, les Sabres, tout ça. Mais derrière, les Bruins, les Sénateurs qui sont... OK, on va parler des Sénateurs. Thomas Chabot, blessé. Jake Sanderson, blessé. Dans les deux cas, pas sûr qu'on les revoit cette saison. On rappelle Carter Yakemchuk. Hier, un but, une passe. Les Sénateurs qui ont gagné 4 matchs de suite. Vous y croyez aux Sénateurs ou à un moment donné, on va être rattrapé par les deux blessures de Sanderson et Chabot?
Ben moi, c'est l'aspect qui fait peur. C'est la ligne bleue. C'est de survivre sans tes deux meilleurs défenseurs, Jake Sanderson et Thomas Chabot. Pis c'est passé un petit peu sous le silence, là, mais le coup de JT Miller contre Thomas Chabot, où il vise son poignet, un geste d'un gars frustré qui joue pour une équipe frustrée. Je comprends que JT Miller a gagné la médaille d'or avec les États-Unis. Là. Bravo pour JT Miller. Mais je trouve que ce geste-là était pas gentil. J'ai pas aimé la réaction de JT Miller. Puis pour les Sens, oui, Carter Yakemchuk, c'est une belle histoire à son premier match. Un but, une passe. Mais je pense qu'il était à moins 30 dans la Ligue américaine avec les Sénateurs de Belleville. Il y avait quand même de bonnes saisons. Une bonne saison recrue offensivement. Mais défensivement, c'était difficile comme son équipe. Écoute, il s'agirait d'une très belle histoire si jamais les Sénateurs peuvent rentrer, mais c'est une équipe qui a le vent dans les voiles versus les Islanders, on dirait qu'il y a un ralentissement. Les Red Wings vont rester les Red Wings en fin de saison. Eux aussi, il y a un ralentissement. Donc, les Sens, jusqu'à présent, peuvent rêver de se faufiler.
Et les Red Wings, là, ça fait combien de matchs que John Gibson garde par rapport à Cam Talbot? Attendez, je vais vous sortir ça. Là. Depuis le 1er janvier, là, 25 départs pour John Gibson, 5 départs pour Cam Talbot.
Ouais.
Mon pool en souffre, mais surtout, surtout, moi, je me rappelle de ce qui tuait John Gibson à Anaheim, c'est quand il se mettait à jouer trop de matchs, puis il en jouait des matchs à Anaheim, puis il en jouait. Ouais. Puis là, je suis en train de me demander, même si ses statistiques sont bonnes, 2.16, 919, est-ce que Gibson est en train de se faire rattraper par ça à Détroit? Est-ce qu'au final, c'est ce qui va faire mal? Parce que regardez ses deux derniers matchs, deux défaites, moyenne sous les 900 dans les deux derniers matchs. Je me demande du côté de Todd McLellan, est-ce qu'on n'a pas un petit peu trop étiré l'élastique? Puis là, ça va nous rattraper en fin de saison. Parce que je regarde les Bruins, les Pingouins aussi, ça s'annonce difficile. Là, les Blue Jackets, écoute, j'ai hâte de voir les Blue Jackets jeudi parce que la porte est grande.
Ils ont un bon coussin. On le disait hier, là, c'est fait. on l'a déclaré hier. Je pense que les Hurricanes...
Ils vont finir deuxième ou troisième.
Sont dans le portrait de...
Il y a juste deux points de différence quand même avec les Islanders. Mais il y a les Pingouins, puis tout ça, puis la
métropole. Ouais, mais... Tu regardes ça, tu sais, les Islanders jouent pour 500 dans leurs 10 derniers. Les Red Wings, 3 victoires seulement. Tu vois certaines tendances. Puis là, à ce moment-ci de l'année, il ne reste plus beaucoup de temps pour renverser la dite tendance. Tu parlais de John Gibson. On dirait que c'est la vieille façon de faire. Là. Les équipes de la Ligue nationale optent pour des duos 1A, 1B. Puis on partage trois quarts, un quart, peut-être plus vers la moitié habituellement. Puis là, on confie toute la tâche à John Gibson. C'est pas surprenant qu'il y ait un ralentissement. On l'a vu aussi du côté de Montréal l'an dernier avec Samuel Montembeault en séries éliminatoires. Ben, il y a eu la blessure. Tu sais, ça ouvre la porte à plusieurs scénarios différents là, pour un gardien qui joue trop de matchs. C'est peut-être ça qu'on est en train de voir du côté des Red Wings. Mais tu sais, généralement, cette équipe-là, quand même connu une saison surprenante. C'est maintenu dans le portrait des séries pendant la majorité de la saison. Mais on avait des doutes en début de saison. Ces doutes-là sont peut-être en train de se confirmer par rapport à cette équipe-là qui ne parvient pas à faire fonctionner cette reconstruction-là.
Dylan Larkin est de retour, par contre, ça va peut-être aider à moyen terme, on verra.
Il reste une douzaine de matchs, puis tu as un paquet d'équipes qui sont dans un moton avec 1-2 points d'écart, donc ça peut encore changer. T'sais, si les Wings gagnent les 4 prochains matchs, on va avoir un discours différent au prochain balado.
Ouais, et dans l'Ouest, la surprise présentement, c'est Nashville. Ça tombe bien, les Canadiens les affrontent samedi.
La seule équipe qui perd pas, donc ça, c'est la bonne équipe.
C'est pas compliqué, c'est juste plate pour eux autres qui sont pas dans la section Pacifique parce qu'ils seraient dans la lutte pour le premier rang ou à tout le moins le deuxième rang. Les Predators de Nashville, 5 victoires de suite, ça, êtes-vous surpris? Surtout que on a été quelque peu vendeur la date limite des transactions. Ouais. Finalement, c'était Michael McCarron le problème, là, on dirait, là, parce que depuis qu'on a fait l'échange, depuis la date limite des transactions, je blague, là, c'est pas vrai, mais les Predators de Nashville, vous attendez à quoi de cette équipe-là? Qu'est-ce qu'on va voir de cette équipe-là samedi qui peut faire que présentement, ça passe par Steven Stamkos ça, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, devrais-je dire?
Ben, Stamkos, leur gardien, Jussi Saros, Jonathan Marchessault, Ryan O'Reilly. C'est une équipe de vieux. À quoi s'attendre? J'ai plus ou moins d'attente pour les Prédateurs de Nashville. C'est une équipe qui va rentrer en série, peut-être, mais
ça,
qui va sortir aussi rapidement. Oh oui, mais regarde, ils auront la chance d'être la 8e équipe d'une faible association puis de jouer contre l'Avalanche ou les Stars au premier tour pour finalement refaire tes valises rapidement. Donc,
tu remets ça en contexte, une équipe qui serait derrière les Capitals de Washington dans l'Est.
Cette année, il y a un gros déséquilibre.
Oui, on est en série, on connaît une bonne séquence. C'est quand même une équipe qui arrive sur une série de 5-6 victoires, ben, c'est toujours dangereux, mais je ne lirai pas trop loin dans ces succès-là parce qu'il y a tout un contexte dans l'Ouest cette année.
Là. J'ai peu d'attentes. Je ne commence pas à rêver d'aller manger un sandwich au ballonnet au Roberts puis de prendre une ou deux bières sur Broadway. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller.
Ça serait étonnant d'aller... on ne réservera pas nos places au Tooties tout de suite.
Non.
Mais quand même, 17 points en 12 matchs pour Philip Forsberg, Steven Stamkos qui, attention, là, ça s'approche d'une autre saison de 40 buts. Il y a quelques éléments. On va peut-être redécouvrir une équipe samedi, tout ça. Mais bon, comme tu as dit, puis tu l'as bien exprimé, il reste encore 11, 12 matchs pour la plupart des équipes, 10 matchs, peu importe. C'est loin, loin, loin d'être terminé. C'est éliminatoire. Par contre, une place où la saison est terminée, ça commence ce vendredi, ce jeudi, ce vendredi. Guillaume, dans la Ligue d'Hockey Junior, Maritime, ouais. Québec. Tu regardes ça
jeudi,
un peu.
En
on va
fait,
parler
y a un match
de l'équipe peut-être. Ben, c'est pour ça que j'ai dit jeudi, parce que souvent, il y en a toujours un jeudi. Puis après ça, ça commence plus rapidement là, à partir de vendredi. L'équipe qui a terminé au sommet du classement, Wildcats de Moncton, qui s'amène, qui selon toi, vont peut-être être, ben, pas selon toi, qui vont être les favoris sur papier. Caleb Desnoyers qui a signé son contrat cette semaine avec... Ouais, ben oui, mais là, je veux pas... Il y en a plusieurs, là, OK? Wildcats, ils ont fini un point devant les Saguenayens, alors je les mets premiers. Ça te va-tu, Jeff?
Parfait.
104, 103 points. Moncton-Chicoutimi, 104, 103 points. L'autre côté, Rouyn-Noranda, Blainville-Beaubriand, 87, 86. Là aussi, il y a une certaine disparité entre les deux associations. Caleb Desnoyers, qui a signé son contrat. Parle-moi un peu de sa saison. Là, il vient de signer avec le Mammouth, contrat de recrue. Il a signé ça samedi avant son match, qui était vraiment important pour aller chercher le premier rang pour les Wildcats de Moncton. Parle-moi un peu de sa saison, parce que ça a commencé en retard en raison d'une blessure puis tout ça, dénoyé. Mais à ton avis, est-ce que c'est le joueur à surveiller en séries éliminatoires dans la LHGMQ?
Ben, l'année passée, ça avait été le joueur le plus utile des séries. 30 points en 19 matchs. Il avait fait ça avec aucun poignet. Il était blessé aux deux poignets tout au long des séries éliminatoires. Donc là, un Caleb Desnoyers, puis je lui ai demandé au téléphone, est-ce qu'il m'a dit la vérité? Je sais pas, mais il m'a dit qu'il est en santé puis que ça allait faire une bonne différence par rapport à l'an dernier. Caleb Desnoyers, c'était la première fois qu'il passait à travers un processus de réadaptation, d'opération au poignet et tout ça. Je me souviens, au début de la saison, on se demandait est-ce qu'il va être prêt pour le Mondial Junior, est-ce que ça va lui coûter sa place avec la formation canadienne. Finalement, il est revenu plus tôt que prévu. Ça a été un petit peu lent comme départ, mais après ça, il a vraiment pris son air d'aller. Il termine la saison avec 78 points en 45 matchs. C'est le joueur, je dirais, tu sais, sur papier, s'il avait joué toute la saison, il aurait fait compétition à Maxime Massé, là, qui est terminé au premier rang des pointeurs de la Ligue, ça c'est certain. Mais c'est une équipe qui est surprenante. Je me souviens, puis je l'ai dit à Caleb en entrevue, je me souviens, on s'est parlé au mois de novembre à Boisbriand, puis tu me parlais d'un back-to-back, puis d'une possibilité d'y retourner cette année avec les Wildcats. J'ai dit à ce moment-là, je te croyais pas parce que je me disais que c'est du wishful thinking, là, parce qu'une équipe junior qui va jusqu'au bout l'année suivante, habituellement, c'est pas dans le portrait des équipes qui aspirent aux grands honneurs. Puis les Wildcats, après une saison de 108 points, terminent à 104 points cette année. Mené cette fois par Caleb Desnoyers, qui est le capitaine cette année. C'est une équipe qui est quand même impressionnante. Gardner McDougall, l'entraîneur, qui trouve toujours le moyen d'aller motiver ses troupes et de parvenir à ses fins. Il y a eu l'arrivée aussi de Tommy Blyle, l'espoir admissible au prochain repêchage, qui a connu une ascension fulgurante, qui est considéré maintenant comme un potentiel choix de premier tour au prochain repêchage. Donc ça a quand même changé la donne aussi. Ben les Wildcats vont être à surveiller. Je dirais pas favoris. En tout cas, pour moi, je pense que les Saguenayens ont un petit peu plus d'éléments, sont une équipe un peu plus profonde, un peu plus complète. Mais les Wildcats, c'est quand même très, très impressionnant d'y aller, de réussir à faire ce qu'ils ont fait deux années de suite. Là. On ne voit pas ça tous les jours dans l'hockey junior.
Tu parlais de profondeur pour les Saguenayens. C'est une équipe qui est montée pour cette année-là. C'est peut-être la différence avec les Wildcats, justement.
Mm-hmm. Oui, oui, absolument. Tu sais, les Saguenayens, je pense, ont bâti ça depuis 2021, ce noyau-là. Puis on a 2026 dans la mire depuis ce temps-là. Fait que vraiment, on a ajouté les éléments au fur et à mesure que les années se sont succédées. Puis on est rendu vraiment à récolter les fruits. Maxime Massé, qui est la pièce principale de cette reconstruction-là, ben termine au premier rang des pointeurs. C'est un peu incroyable. Là. Je pense que dans le dernier mois de la saison régulière, j'ai pas fait le décompte, là, mais ça doit être quelque chose comme 25-30 points là, parce que les Saguenayens se sont mis à marquer en fou à partir des derniers matchs de la saison régulière. Donc, c'est une équipe qui est à surveiller, une défensive vraiment incroyable. Deux gardiens qui sont les deux meilleurs gardiens de la ligue. Peut-être Rudy Guimond du côté des Wildcats qui leur fait compétition, mais je vois pas beaucoup de failles du côté défensif chez les Saguenayens. On a une belle profondeur offensive. Fait que moi, j'y vais avec les Saguenayens, là, si tu me demandes qui est favori en ce moment, mais c'est certain que j'ai vraiment hâte de voir ce que les Wildcats vont réussir à faire parce qu'il y avait l'ingrédient Gardner McDougall est toujours. Faut pas sous-estimer ça, hein, parce que c'est un entraîneur qui sait comment gagner, qui sait comment rallier ses troupes. Puis Caleb Desnoyers, dans son leadership, j'écrivais justement la signature de son contrat, a partagé ça avec ses coéquipiers, a demandé à réunir tous les gars pour signer son contrat avec eux, immortaliser le moment en photo. Puis quand j'ai vu ça se promener sur les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est Caleb Desnoyers tout craché, c'est exactement le gars d'équipe qui veut que tout le monde fasse partie du projet. Fait que il y a cet intangible-là aussi du côté de Moncton qui pourrait peser en faveur des Wildcats au bout de la ligne.
J'ai gardé Massé ses 22 points en 11 matchs. En 11 matchs lors du mois de mars. Donc, tu peux rajouter le dernier match de février aussi. Il avait fait 6 points en une rencontre. Donc, si tu veux monter un petit peu la récolte, 28 à 12. Tu as parlé de Desnoyers, tu as parlé de Massé. Je te demande 2-3 joueurs de plus à surveiller durant ces séries-là. Qui t'as à l'œil?
Un Justin Carbonneau. Mm-hmm. Gagné le championnat des buteurs de la LGMQ. L'Armada pas gagné une ronde depuis qu'il est avec cette équipe-là. Et là, cette année, c'est l'année de l'Armada aussi qui a fait des acquisitions pour aller jusqu'au but cette année. Peut-être une saison régulière un peu plus en dents de scie que les deux autres équipes qu'on a parlé, mais Justin Carbonneau a quelque chose à prouver dans ces séries-là, veut transporter son équipe au moins en deuxième ronde. Après ça, on verra troisième, quatrième. Qui d'autre? Honnêtement,
Xavier Villeneuve, peut-être, Guillaume?
Oui, Xavier Villeneuve qui est revenu au jeu pour les deux derniers matchs de la saison régulière après avoir été blessé depuis le début janvier. Là. C'était une absence qui s'est prolongée. Lui, ça va être important de connaître de grandes séries parce que seulement 37 matchs, si je ne me trompe pas, cette saison à cause de cette blessure-là. Donc, va vouloir prouver ce qu'il est en mesure de faire sur une patinoire. Et j'en ai glissé un mot, Tommy Blair du côté de Moncton, 81 points en 63 matchs à sa première saison dans la GMQ. Il patine vraiment. Je parlais avec JF Danfous du bureau central de dépistage, puis il disait c'est un des meilleurs patineurs de la Ligue canadienne de hockey au grand complet. Lui, en séries éliminatoires, les yeux vont peut-être se tourner vers lui. C'est pas le plus gros défenseur, mais on va vouloir voir de quel bois il chauffe contre la compétition un petit peu plus féroce. Donc, je me tournerai vers lui aussi pour voir s'il est en mesure de continuer à augmenter sa valeur là, d'ici au repêchage.
Ouais, puis tu parlais de l'Armada. Belzonon a signé son contrat aussi avec les Penguins de Pittsburgh. Puis, tu sais, c'est une saison, justement, Zonon, saison écourtée par les blessures. Villeneuve, même chose. Il y a peut-être un peu plus à aller chercher du côté de l'Armada. Puis ça a été long un peu, le nouvel entraîneur aussi. Ça a peut-être été un peu plus long, se mettre en branle.
Spencer ça, Gill aussi, un choix de deuxième tour des Flyers qui a été blessé, qui est revenu au mois de février, si je ne m'abuse, mi-février. Donc, l'Armada n'a jamais vraiment eu une formation complète. Donc, il faut prendre le classement général avec un petit grain de sel de leur côté. Peut-être qu'ils vont être en mesure de faire prendre la sauce en séries éliminatoires.
Oui, peut-être. On va suivre ça. On en a pour 3 mois de toute façon. Deux mois. Avec les séries jusqu'à la Coupe Trophée Gilles Courteau et par la suite la Coupe Memorial. Les gars, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui avec moi.
Ça fait toujours plaisir.
Je vous laisse partir. Jeff, tu t'en vas à l'entraînement des Canadiens. Les gens vont pouvoir lire ton texte aujourd'hui sur le site lnh.com. Justement, Guillaume, le texte que tu as écrit avec Caleb Desnoyers qui est disponible sur le site lnh.com et tout le reste qui s'en vient avec la venue des Blue Jackets et tout ça à Montréal d'ici la fin de la semaine. Merci d'avoir été là. Les gens peuvent vous lire ça. Comme je disais aussi, abonnez-vous, suivez-nous sur les plateformes de diffusion. On est disponible en audio, Spotify, Apple, tout ça, en vidéo sur le site de lnh.com. Et sur Spotify si vous voulez nous regarder. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se reparle très bientôt.